Les informations, Lénaïque Monnier, Bernard Poiretz.
Lénaïque, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une de votre journal, encore raté pour la France à l'Eurovision.
14e place pour Bilal Hassani et la victoire finale pour les Pays-Bas. Si vous avez manqué cette folle soirée, Diane Chinouda vous la résumera. Les parents de Vincent Lambert lancent un appel à Emmanuel Macron pour maintenir leur fils en vie, car c'est à partir de demain que les traitements peuvent être arrêtés. Et puis Alain Delon, récompensé à Cannes ce soir à 83 ans, le Guépard recevra sa première palme d'or.
Europe 1. Ce ne sera donc pas encore pour cette fois. Toujours pas de victoire française à l'Eurovision.
Bilal Hassani, qui représentait la France avec son titre roi, n'a pas convaincu. Le jeune chanteur n'a recueilli que 105 points et n'intègre même pas le top 10. 14e place décevante pour la France, alors que finalement, les pronostiqueurs avaient vu juste victoire des Pays-Bas sur la chanson de Duncan Lawrence. Si vous avez raté cette soirée qui s'est achevée très tard, voici le résumé de Diane Chinouda.
Quand je rêve, je suis un roi. Le rêve ne s'est finalement pas réalisé pour Bilal Hassani, qui n'a pas été sacré roi. Sa chanson était pourtant efficace, mais sa prestation a manqué de souffle. Et le jeune Bilal, avec une voix légèrement altérée, un peu enrouée, n'était pas à son maximum. Ça manquait d'intensité, à l'inverse du grand favori, le néerlandais Duncan Lawrence, pour qui le jury français a donné le maximum de points et qui a transporté le public avec sa chanson d'amour « Arcade ». Le beau ténébreux a livré une prestation sensible avec sa balade au piano et un jeu de lumière intimiste. Chanson inspirée de la disparition d'un être cher, Duncan Lawrence permet à son pays, après un beau suspense, le vote du public a tout fait basculer, de remporter cette Eurovision, une première pour les Pays-Bas depuis 44 ans.
Et à Tel Aviv, hier soir, Madonna a aussi été sur scène pour chanter les deux nouveaux titres de son album ainsi que le tube Like a Prayer qui a déjà 30 ans. Beaucoup de fausses notes d'après les téléspectateurs qui ont raillé la Madonna sur les réseaux sociaux. À 1 million d'euros la prestation, la reine de la pop a déçu ses fans.
On ne peut pas être au top tous les soirs, sans doute, même quand on s'appelle Madonna. L'appel de la dernière chance des avocats des parents de Vincent Lambert.
À partir de demain, les traitements pour le maintenir en vie pourront être arrêtés. Décision prise collégialement par les médecins du CHU de Reims, où Vincent Lambert est hospitalisé. Mais les parents contestent dans une lettre. Ils sollicitent l'intervention d'Emmanuel Macron. Les explications de Chanel Petit.
C'est la lettre de la dernière chance adressée à Emmanuel Macron, l'ultime appel à l'aide à quelques heures de l'arrêt des traitements. Vincent Lambert mourra privé d'hydratation dans la semaine du 20 mai si vous ne faites rien, écrivent les deux avocats. Vous êtes le dernier et le seul à pouvoir intervenir. La mort programmée de Vincent Lambert apparaîtra aux yeux de la postérité comme un crime d'État. Fin de citation. Le président n'a pour l'instant pas répondu. L'Élysée n'a pas indiqué s'il le ferait. Alors la mère de Vincent Lambert abat cet après-midi sa dernière carte. Elle appelle à un rassemblement devant l'hôpital de Reims pour, je cite, « supplier les médecins de continuer les traitements ». Il y a deux jours, le Comité international des droits des personnes handicapées relevant de l'ONU a redemandé à la France de maintenir provisoirement les soins. Mais ce comité n'a qu'une valeur symbolique. Il y a donc très peu de chances pour que la France change de position. Le gouvernement met en avant le droit du patient à ne pas subir d'obstination déraisonnable.
Chanel Petit pour Europe 1.
Et je vous rappelle que ce matin sur Europe 1 et à la mi-journée, il y aura deux invités autour de cette affaire Lambert. D'abord Jean-Luc Romero. À 8h15, c'est le président de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et ensuite, à la mi-journée, dans le journal de 12h30, Jean Leonetti, le vice-président délégué des Républicains, qui a porté la loi du même nom sur la fin de vie qui a été adoptée en 2005, puis modifiée en 2016. Il sera l'invité de la mi-journée sur Europe 1. Les populistes européens, eux, étaient à Milan hier pour mobiliser avant le scrutin de dimanche prochain.
Fédérés avant de voter, Matteo Salvini avait invité 12 formations eurosceptiques, parmi lesquelles le Rassemblement national. Salvini, qui s'est plus que jamais posé en leader, sur place Adrien Beck.
12 nuances d'eurosceptiques sur une même scène, la photo à son auteur Matteo Salvini. Galvanisé par ses troupes en son fief milanais, l'homme fort du gouvernement italien voit grand.
Si vous votez pour nous le 26 mai, vous nous aiderez à devenir le premier parti italien, le premier parti européen.
Un discours d'une demi-heure, Salvini fait huer ses homologues, Macron, Merkel, Juncker. Ne reste que 5 petites minutes pour chaque allié, à peine plus pour Marine Le Pen. Elle qui ne parle qu'en français a pourtant fait l'effort de dire quelques mots en italien.
Nous allons faire cette révolution du bon sens dans toute l'Europe.
La révolution du bon sens, slogan de Matteo Salvini, illustration d'un leadership accepté finalement par Nicolas, militant RN venu de Provence.
Aujourd'hui, la Ligue est au pouvoir en Italie. Pour nous, c'est un modèle.
Domination italienne sans doute confirmée dimanche prochain. Le parti de Matteo Salvini devrait envoyer le plus grand nombre de députés eurosceptiques au Parlement européen. Milan, Adrien Beck, Europe 1.
Et du côté du FPÖ autrichien, on faisait profil bas. Le président du parti a démissionné. Le vice-chancelier, filmé en 2017 en train de tenter de compromettre la nièce d'un oligarque russe en échange d'un soutien politique avant les législatives.
De la corruption aussi en Italie. On reparle justement à ce propos de M. Matteo Salvini.
Son bras droit est visé par une enquête pour corruption et collusion mafieuse. Il aurait voulu protéger les intérêts d'une société spécialisée dans les énergies renouvelables. C'est une affaire qui montre que la criminalité a évolué avec l'an passé encore 5 milliards d'euros de biens mafieux saisis. Jean-Sébastien Soldaini.
L'image du parrain qui fait régner la peur, arme au poing, semble avoir vécu. Désormais, les mafieux italiens misent sur les gros flux financiers. Ils investissent dans des sociétés de paris en ligne basées à Malte, dans des opérations de trading entre l'Italie et la Croatie. Les Italiens appellent cela la bourgeoisie mafieuse. Et symbole de cette préférence pour la délinquance en col blanc, les barons paraissent délaisser le sud de l'Italie. Naples, la Sicile perdent du terrain au profit du Nord. Fabrice Risoli, auteur de La Mafia de A à Z, confirme que le business y est bien plus juteux et bien plus facile.
Comment Milan, capitale économique de l'Italie, à deux pas de la Suisse, pourrait-elle être épargnée ? Parce que, par exemple, toutes les sociétés d'import-export sont basées à Milan. Quand les mafieux sont allés dans le nord de l'Italie et qu'ils ont commencé à corrompre les élus des conseils municipaux, les banquiers, ils n'ont pas trouvé de résistance.
La prise de conscience est lente, mais la formation des magistrats commence à porter ses fruits. C'est pour ça que ces affaires de délinquance financière aboutissent. Les juges anti-mafia du Nord commencent à se spécialiser dans ce domaine, là où cela fait plus de 30 ans que leurs confrères du Sud confisquent des biens mal acquis à tour de bras.
Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. En France, François Hollande a lui choisi son camp. L'ancien président de la République appelle à voter pour la liste socialiste Place Publique, créditée dans les derniers sondages de 5% d'intention de vote. La liste du Rassemblement National avec 24% devance la liste Renaissance portée par l'AREM, 22%. Aucune liste de gilets jaunes ne dépasse les 1%.
Et d'ailleurs, ils étaient encore moins nombreux que les samedis précédents hier pour leur acte 27.
15 500 manifestants partout en France selon le ministère de l'Intérieur contre 18 600 la semaine dernière. Un peu plus de monde à Paris, 1 600 personnes. Les gilets jaunes, eux, ont dénombré près de 41 000 personnages à travers le pays, journée marquée par des tensions à Reims notamment, où une femme a été blessée.
Le baccalauréat, c'est dans un mois exactement et il est plus que temps, bien évidemment, de penser aux révisions.
Et comme chaque année, ça débute par l'épreuve de philo, pas la plus simple à bachoter, à moins peut-être de le faire en s'amusant, comme avec le jeu Philo Défi, inventé par un prof de philo de Poitiers. C'est un jeu de cartes que Sébastien Rouxel a testé avec une classe de terminale littéraire du lycée Georges Brassens à Paris.
Autour de chaque table, des groupes de 8. Tous ont les yeux rivés sur des cartes. Sur certaines, le dessin de grands philosophes. Sur les autres, des citations. Le but de ce premier mini-jeu, rattacher chaque phrase à son auteur.
Vous êtes prêts ? Nul n'est méchant volontairement.
Non, Pascal, je dirais.
Raté, c'est Socrate. Mais parmi les élèves, il y en a un qui accumule les bonnes réponses. C'est Tristan.
C'est très bien ce jeu, moi j'aime bien. Parce que tu gagnes, tout à fait.
Après 20 minutes, on passe à un autre mini-jeu. C'est plus difficile. Aglaé et Pauline ont choisi la carte « L'homme se définit-il par sa culture ?». Elles doivent maintenant y répondre avec les citations de Descartes.
Il distingue l'homme de l'animal en disant que c'est pas nécessairement l'intelligence ou la raison, mais la perfectibilité qui fait que l'homme évolue au cours du temps.
Mais aussi, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, que l'homme est avant tout un homo faber et non pas un homo sapiens.
Leur enseignante, Françoise Gauthier, découvre le jeu avec ses élèves et c'est une bonne surprise.
C'est une bonne idée pour inciter les élèves à réviser de façon ludique, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop comment ils travaillent quand ils sont chez eux. Pour là, avec l'émulation du groupe, ça peut être stimulant.
Quelques profs l'utilisent déjà dans leur classe, une façon ludique de préparer l'épreuve du 17 juin.
Et si vous connaissez des futurs bacheliers, le jeu coûte 25 euros.
On en connaît tous, vous le savez. Alain Delon sera honoré à Cannes ce soir Et ce sera la première fois de sa carrière.
Pour conclure la première semaine du festival, le mythique acteur du Guépard ou de Plein Soleil, entre autres, va recevoir une Palme d'Or d'honneur. Récompense qu'il a acceptée, même s'il a boudé la croisette pendant de nombreuses années. À Cannes pour Europe 1, Virginie Salmen.
Hôtel majestique face à la plage, à deux pas du tapis rouge. Quelques dizaines de fans attendent Alain Delon à son arrivée hier soir. L'acteur n'est pas d'humeur bavarde.
Juste que vous ressentez d'être ici.
Le bonheur, tu vois pas le plaisir. Folie.
Et sur la croisette, c'est loin d'être la Delon mania.
Non, j'attends pas du tout. Ah non. Parce que je l'aime pas. Je l'ai aimé quand il était jeune, mais maintenant il est trop prétentieux. Ça a été un grand acteur, c'est vrai, on peut lui laisser ça quand même. Mais je l'ai aimé jeune, c'est vrai.
Je savais même pas qu'il venait. C'est encore mieux. Hein.
À l'exception peut-être des inconditionnels du festival perchés sur leur fameux escabeau devant les marches.
Bien sûr, on guette toujours Alain Delon. C'est quand même une vedette française en plus. Rocky et ses frères par exemple. Là j'ai bien aimé dans ce film-là.
Pour Pierre, le patron de la plus célèbre boutique d'affiches de cinéma de Cannes, c'est pourtant un hommage historique.
C'est la première fois qu'on fait une affiche et on rend hommage à un acteur vivant. Il fallait le faire. On ne l'avait jamais fait avant, il n'a jamais eu de Palme d'Or, il n'a jamais eu de prix vraiment. Normalement, il devait faire l'affiche du Festival de Cannes avec Alain Delon, mais vu qu'on n'était pas sûr qu'il venait, parce qu'il n'avait pas envie, il était dans sa retraite, donc ils en ont fait une quand même, c'est pour ça qu'elle existe.
Et c'est la fille d'Alain Delon, Anouchka Delon, qui a convaincu son père de venir à Cannes ce soir, c'est elle qui lui remettra une Palme d'honneur.
Virgile Salmen, depuis Cannes pour Europe 1.
Et à 6h11, c'est votre journal des sports avec Lénaïque Moignet.
Les Naïcs, pas d'Europe pour Marseille donc cette saison, mais une belle avant-dernière journée de Ligue 1 tout de même.
Pour le moral, ça fait du bien. L'OM a sauvé l'honneur hier soir en battant Toulouse 5-2. Victoire sans conséquence au classement, oui, mais importante pour les joueurs, comme l'explique l'attaquant Florian Thauvin.
Non, c'est clair que ce n'est pas le match de ce soir qui va rattraper notre saison. Ça reste forcément une déception. Là, ça, on va pas se mentir. Après, voilà, c'est quand même important de faire le boulot jusqu'au bout, même si on n'a pas atteint nos objectifs. Et voilà, on joue dans un grand club. Il faut respecter le maillot, il faut respecter l'institution et les supporters. Donc on se doit de faire donner le maximum de nous jusqu'au bout.
Florian Thauvin avec Patrick Anselmetti.
À retenir aussi que Lyon va bien jouer la Ligue des Champions après sa victoire 4-0 contre Caen.
Et c'est bien le duo Silvinho-Juninho qui sera à la manœuvre à la place de Genesio, dont c'était la dernière à domicile hier. Saint-Etienne jouera la Ligue Europa après sa victoire contre Nice 3-0, mais ce sera sans Jean-Louis Gasset qui veut arrêter. Monaco, 16e, est quasi sauvé après sa victoire à Amiens. En revanche, Dijon reste avant-dernier après la défaite face au PSG.
Et en rugby, la fin de saison se précise aussi nettement.
Avec un match pour une place de barragiste qui se joue à 12h30 entre Montpellier et le Stade français. Paris qui s'est relancé dans la course au play-off après une victoire surprise contre le Racing, c'était la semaine passée. C'est une équipe qui ne laisse jamais tomber. Écoutez l'entraîneur des avants du Stade français, Peter De Villiers.
C'est un club qui a toujours aimé les défis. C'est un club qui a montré toujours beaucoup de caractère dans les situations difficiles et dos contre le mur. Dans le monde du rugby, Paris est toujours, dans le passé, était vu comme un peu non-rugbystique. Je pense que c'est peut-être lié à ça. Aujourd'hui, ça s'explique peut-être parce que c'est une nouvelle aventure. C'est tout nouveau, ça débute. Et on a des jeunes joueurs qui ont envie de prouver, eux aussi, qui ont envie de jouer leur place. Donc il y a plusieurs facteurs qui pensent qui jouent un rôle. Maintenant, on va, je pense, faire confiance à la plupart de ce groupe pour aller continuer à nous montrer ce qu'ils ont dans le ventre.
Peter De Villiers avec Marie Guida. Et hier, Lyon a assuré sa place en phase finale en battant La Rochelle 29-19. Pour le Loup, c'est une première.
Et Guy Forget, le patron du tournoi de Roland-Garros, sera face aux auditeurs d'Europe 1. Ce sera ce soir, bien sûr, à une semaine du tournoi parisien.
Discussion à bâton rompu, notamment sur la Coupe Davis. Nouvelle formule cette année. Tout va se passer à Madrid fin novembre. Qu'en pense Guy Forget, qu'il a gagné comme joueur en 91 et en 96 et puis comme capitaine en 2001?
Je ne sais pas quelle est la bonne solution, très sincèrement. Est-ce que cette formule va avoir le succès escompté? On est en droit de se poser la question. J'en doute. Si c'était le cas, j'en serais ravi. Et quand on touche au format d'une épreuve qui pourtant marchait bien à l'époque, on ne peut être qu'un petit peu inquiet, effectivement. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de France et Sébastien Grosjean, qui est le nouveau capitaine, ira à Madrid en fin d'année avec tous les joueurs français. Donc l'équipe de France sera représentée d'une manière totale. La formule actuelle avait, en tout cas pas en France, mais dans d'autres pays, avait de grandes difficultés. Est-ce que cette nouvelle formule suffira à lui redonner son lustre? Je le souhaite.
Guy Forget avec Lionel Rousseau, il sera face aux auditeurs d'Europe 1. C'est un entretien à retrouver en intégralité à 20h.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier. Elle présentait le premier journal de cette matinale, celui de 6h.